Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 326 du podcast Agent Actuel Amatei. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire de la semaine NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour.
Salut, salut à tous.
Configuration grève hein, cette semaine, on n'est que deux, on fait un petit peu avec les moyens du bord qui peut se déplacer, pas se déplacer, à distance, pas à distance. Et du coup, le bonus de la grève, c'est que vous êtes livré en avance, donc comme quoi vous devez soutenir les grévistes, hein, puisque ça vous permet d'avoir le podcast avec quoi 3-4 heures d'avance à mon avis selon le montage, hein, parce qu'on enregistre ouais, quasiment avec 4 heures d'avance. Donc on est pas mal. Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris tous les dimanches, soirée Game On au Hard Rock Café Paris, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, et les Beer Buckets, 6 bières pour le prix de 5, donc ne ratez pas ça, soirée tous les dimanches, il y aura aussi la soirée Super Bowl et puis probablement une petite fête de fin d'année, comme on le fait à chaque fois. Le match de l'année, les Patriots en difficulté, les Rams qui vont mieux, les Titans en feu, on se prépare une fin de saison exceptionnelle, Raphaël, tout ça et plein d'autres choses, on va en parler dans cette émission. On vous fait gagner un petit truc aussi, alors d'habitude on fait toujours gagner un petit truc, faut que je retrouve ma liste de lots. Si vous partagez l'émission, on vous fait gagner un truc. Et je ne... voilà, j'ai fait une erreur sur mon fichier Excel, j'arrive pas à y accéder. Alors voilà, c'est ma faute. Je suis obligé de m'envoyer. Bon, on vous fera gagner un truc si vous partagez l'émission, voilà. Et on le dira sur les réseaux. Là, c'est la surprise. Voilà. Peut-être un porte-clés, peut-être un. Voilà, il y aura un petit souvenir NFL, peut-être un programme. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux. En tout cas, on l'a dit, une énorme fin de saison qui se prépare. On débriefe tout ça. C'est après le premier jingle.
Garoppolo fires. It is caught. Still on his feet is Kittle with a big play and the stiff arm. George Kittle. Flags fly. He's down. What a run by George Kittle!
Saint anger around my neck. Saint anger around my neck. He never gets respect. Saint anger around my neck.
You flush it out! You flush it out!
Saints 48, 49ers 48, ça fait beaucoup de 40 avec les 49ers, on a 46, 48, 49 du coup. 48 à 46 pour San Francisco, ce sera plus simple. 94 points, 981 yards, 12 touchdowns, victoire à la dernière seconde sur un field goal et une énorme action offensive de George Kittle en fin de match sur une 4ème et 2. Raphaël, est-ce qu'on a assisté au match de l'année?
Ouais, pas loin, c'était sans doute le match de cette saison régulière, en tout cas d'un point de vue offensif, on a frôlé la perfection sur plusieurs drives, même la première mi-temps, hein, sincèrement, on a toujours du mal dans ce genre de match à savoir si c'est les défenses qui étaient complètement absentes ou les attaques qui étaient vraiment très fortes. Là, j'ai quand même un peu le sentiment qu'on était dans une situation où on a eu deux attaques qui étaient en rodage, enfin qui étaient parfaitement rodées. des coachs avec des appels de jeu hyper inspirés, des 49ers qui avaient l'habitude de faire jouer à Garoppolo beaucoup de slant et là qui changent complètement, des Saints qui ont réussi à s'adapter au fait que les 49ers bloquent bien Alvin Kamara pour aller chercher Jared Cook, pour, enfin il y avait beaucoup de diversité, du coup c'est d'un point de vue offensif c'est assurément la plus grande, le plus grand match de cette saison. Ouais.
Bon, on avait vécu un super match comme tu le dis offensivement. Et on n'a plus aucun doute sur les 49ers. Parce
non.
que là, Jimmy Garoppolo à 349 yards, 4 touchdowns, 131 déval. Emmanuel Sanders, alors Emmanuel Sanders, 7 réceptions, 157 yards, 1 touchdown. C'est aussi quand même une différence incroyable dans cette saison pour les 49ers, cette arrivée d'Emmanuel Sanders dans l'effectif.
Ouais, ouais, bien sûr, c'est une énorme plus-value parce qu'il permet de répartir un peu plus les touches avec George Kittle, enfin les réceptions. George Kittle n'est plus la cible, enfin même si ça reste une cible privilégiée pour Garoppolo, hein, mais en tout cas on va dire il est un bis, il partage un peu ce rôle de numéro 1 avec Emmanuel Sanders, et donc forcément ça ouvre le playbook, surtout pour un coach comme Shanahan, esprit offensif, avoir ce genre de joueur comme Emmanuel Sanders capable de courir tous les tracés sur toutes les parties du terrain, je pense que ça doit quand même assez l'inspirer, on va dire, en termes de playbook, donc il apporte une vraie plus-value là-dessus. Et pour le début de ta question, non, on n'a plus de doute. Le seul doute qui reste, ça peut être un peu la réaction d'une équipe qui découvre les playoffs. Voilà, c'est ça, on sait que toutes les équipes ne le gèrent pas forcément bien quand elles passent d'un bilan négatif à les playoffs tout de suite derrière. Tout le monde ne le gère pas tout de suite bien. Maintenant, en termes de talent et ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, là-dessus, il n'y a plus vraiment de doute sur leur niveau. Faut surveiller les petites blessures. Il y a la blessure de Sherman qui peut être un peu embêtante quand même au poste de cornerback. Et leur centre Richburg qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il a une vraie importance dans le jeu au sol. Bon, mais...
Je reprends ce que tu as dit. C'est vrai que c'est pas une critique des 49ers. Il faut pas du tout le voir comme ça. Mais comme tu le disais, c'est très très rare d'aller au bout en playoff dès la première saison dans la construction d'une équipe. Les Seahawks, par exemple, avant de gagner leur Super Bowl contre les Broncos, avaient tâté un peu de playoff l'année d'avant. Les Falcons, alors ils sont pas allés au bout, ils ont pas gagné le titre, mais c'était des habitués des playoffs. Même les Packers de Rodgers ou des choses comme ça avaient tâté quelques matchs de playoff. Donc ça va être clairement une des intrigues de cette fin de saison. Mais après, comme tu disais, sur le jeu. Voilà, ils peuvent gagner au sol, ils peuvent gagner dans les airs, ils ont une très bonne défense. Alors voilà, là c'est un match où ils prennent 46 points. Est-ce qu'on s'inquiète parce que c'était censé être la meilleure défense de la ligue avant ce match? Ils ont pris cher, ils prennent 4 touchdowns sur les 4 premiers drives des Saints. Mais est-ce que c'est une anomalie? Ça reste quand même une très très forte défense, quoi.
Ouais, comme je te disais, moi je suis pas plus inquiet que ça dans le sens où ils ont eu affaire à une attaque qui était vraiment très inspirée sur ce soir-là. Malgré tout, on a quand même vu un Nick Bosa capable de 2-3 grosses actions pour stopper des drives. On a quand même vu une interception. Bon, voilà, je pense que leur défense a montré malgré tout, malgré ses points pris, a montré qu'elle a des capacités. Donc moi je suis pas plus inquiet que ça, je pense pas qu'ils vont prendre 45 points la prochaine fois qu'ils rencontrent une grosse attaque.
Même question pour la défense des Saints, hein, d'ailleurs, ils étaient une très bonne défense avant ce match, ils en prennent 48.
Ouais, et alors pour le coup je dirais pas que la défense des Saints m'inquiète plus, mais peut-être là où je suis un peu plus pessimiste par rapport aux 49ers, c'est que je trouve que eux, leur souci au niveau du backfield défensif continue à s'illustrer, on va dire. On sait qu'ils ont un front seven assez fort, dominant, capable de bien bloquer la course, capable de mettre la pression. J'ai trouvé qu'encore une fois, leur cornerback un peu à l'arrache, et c'est pas la première fois, c'était un peu ce qu'on pense depuis le début de la saison, et pour le coup, ça se confirme aussi un peu. Donc bon.
Tu l'as dit, l'attaque des Saints était vachement inspirée. Mais Alvin Kamara, 1,9 yards par course, et c'est pas forcément nouveau dans ce match. Il a passé les 100 yards au sol que deux fois cette saison, et il a passé les 50 yards à la réception qu'une seule fois. Qu'est-ce qui fait que Alvin Kamara est pas dans le rythme cette année, j'ai l'impression?
Il a été, si je dis pas de bêtises, il a été un peu ralenti par une blessure en milieu de saison. De mémoire, il a raté un ou deux matchs. Peut-être qu'il a un peu de mal à se relancer à ce niveau-là. Après, je sais pas, parce que je trouve pas que la ligne offensive soit particulièrement moins bonne que l'an dernier. Quand on voit sur ce match les performances au sol de Latavius Murray, qui a eu de mémoire 7 yards par portée à peu près. Enfin voilà, c'est une ligne qui continue à réussir à ouvrir des brèches. Il est un peu plus en difficulté, mais je pense que ça reste malgré tout une grosse menace. Donc peut-être un peu de synchronisation avec Drew Brees à retrouver.
Bon, deux, je vais le dire plusieurs fois dans cette émission, deux équipes qu'on devrait revoir en play-off, et ça promet, parce que franchement, ce genre de match, on en redemande. Patriots 16, Chiefs 23, deux autres équipes donc qu'on devrait revoir en play-off, et ça promet. On s'est demandé la semaine dernière s'il y a de quoi être inquiet pour les Patriots. La réponse semblait quand même oui après ce match.
Oui, moi je reste inquiet offensivement par cette équipe des Patriots. Les quelques points qu'ils ont marqués sont soit venus de positions très favorables apportées grâce à la défense ou aux équipes spéciales, où tu redémarres depuis le camp adverse et donc tu n'as que quelques yards à faire pour y aller, ou alors c'est des trick plays, c'est cette play action pour Edelman, voilà, j'ai l'impression que si McDaniels trouve pas le trick play au bon moment, l'attaque de manière classique n'arrive plus à avancer comme elle a pu le faire par le passé, où c'était une sorte de papier millimétré où chaque action était sue à l'avance et était exécutée de manière parfaite, chaque tracé était parfait. Là, c'est plus le cas. Donc,
pour compléter ce que tu dis, les deux seules actions de plus de 20 yards viennent sur des trick plays. Sinon, il n'y a aucune action de plus de 20 yards.
Ouais, non, mais ils ont du mal. Je pense que de 1, il y a un déficit à l'heure actuelle de talent dans cette attaque. Il n'y a pas de tight end numéro 1. En dehors d'Edelman au poste de receveur, c'est peut-être un peu compliqué. On a une Killary qui est un rookie, mais voilà, c'est un rookie. Mohamed Sanou qui n'est pas forcément très bien utilisé à l'heure actuelle du côté de New England. Et puis sur la ligne offensive, on l'a dit, hein, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Beaucoup de blessures sur la ligne offensive et il y a un vrai problème de rythme avec Tom Brady.
En t'entendant parler de Tyden, je suis en train de réaliser qu'en fait, toutes ces... c'était pas des rumeurs, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de vraies rumeurs, mais toutes ces trucs des Patriots et des supporters des Patriots qui entendaient « Oui, Rob Gronkowski va revenir, oui, il va peut-être revenir. » Je pense qu'en fait, c'était plus un vœu qu'autre chose, vu leur situation. S'ils avaient eu un vrai tight end, on n'aurait pas eu autant de fausses rumeurs, en fait, sur Rob Gronkowski.
Oui, non, je pense aussi.
Après le premier drive, ils se sont éteints, 278 yards au total. Ils ont eu une chance d'égaliser, hein, quand même, à une minute de la fin. Ça a été bien défendu par Bashaun Breeland. 2 sur 12 sur les troisièmes tentatives. Il y a eu aussi beaucoup de blitz, beaucoup de pression. Ça met l'attaque en échec. Ça les rend aussi prenables. Alors, Steve Spagnuolo qui blitz Tom Brady, on l'avait vu dans un Super Bowl, à l'époque où il dirigeait la défense des Giants. Donc, il aime bien. Steve Spagnuolo, entre parenthèses, d'ailleurs, il gagne son pognon quand il joue
Ouais, c'est ça.
c'est vraiment son gagne-pain. Mais
il,
voilà.
Il devrait être embauché par une équipe de l'AFC Est. Hein, ça, il aurait quelque
clair.
Chose.
C'est clair. Mais le truc, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça a toujours été le truc de dire. Quand on joue les Patriots, il faut mettre la pression pour les battre, etc. Sauf que là, ça semble plus faisable que d'habitude.
Je suis d'accord, ça semble plus faisable. Je vois beaucoup de gens qui disent que l'attaque des Patriots va se régler d'ici les playoffs. Je peux les rejoindre un peu parce que moi, tant que les Patriots ne seront pas éliminés, je pense qu'ils peuvent gagner le Super Bowl toujours à l'heure actuelle. Et voilà, tant qu'ils ne seront pas éliminés, c'est une équipe qu'il faudra craindre et je ne les enterre pas. Maintenant, je trouve qu'en termes de ce qu'ils dégagent offensivement de cette saison, c'est pas comme ces 2-3 dernières années où ça se mettait un peu en route, mais en semaine 7-8, c'était réglé offensivement et ça déroulait sans aucun problème. Là, c'est quand même très moyen. Et voilà, manque de talent, un Tom Brady un peu ralenti, qui a moins de temps de lancer, qui est pas sur la même longueur d'onde que la plupart de ses receveurs, qui a plus de tight end, un McDaniels peut-être moins inspiré aussi. Enfin, je suis sceptique sur la façon dont ces Patriots-là peuvent redresser la barre d'ici 2 semaines, quoi.
Disons que le facteur X, c'est l'attaque. Ils ont toujours leur défense.
Oui.
Mais parce que, alors, on va parler un peu des Chiefs. Hein. Les Chiefs n'ont pas fait exploser le compteur, mais Patrick Mahomes est capable de trouver quelques brèches, même contre une grande défense, et c'est un peu ce qu'il a fait. Il y a une série où il réussit une 3ème et 19 vers Tyreek Hill, puis une 2ème et 25 sur Mecole Hardman, et il faut ça pour déborder la défense des Patriots. Il faut des exploits comme ça. L'avantage pour les Patriots, c'est qu'ils joueront pas toujours Patrick Mahomes, alors même s'ils risquent de le croiser en playoff. Hein. Mais voilà, donc ils ont toujours leur défense. Ce que tu disais, voilà, est-ce qu'ils vont réussir à se réveiller? Tout dépend de l'attaque. On dirait vraiment que tout dépend de l'attaque maintenant sur cette fin d'année.
Oui, moi je pense que tout dépend de l'attaque, d'autant plus que leur défense est très bonne, mais je pense qu'on l'a vu depuis le début de cette saison, à mon avis, elle suffira pas à faire un run en playoff de 3 victoires. On les a vus perdre face aux Ravens, face aux Texans et face aux Chiefs, soit les 3 plus grosses attaques qu'ils ont rencontrées. C'est pas remettre en cause le talent de cette défense. Elle est talentueuse, mais à mon avis, ça ne suffira pas à gagner 3 matchs de play-off.
Bah, c'est pas pour. Je sens que ça va hurler, mais si, pour la comparaison. Mais si c'est pas Tom Brady et Bill Belichick, on dit que cette équipe ressemble aux Bills ou à certaines équipes qui ont une très grosse défense et une attaque très limitée.
Oui, à l'heure actuelle, c'est ça, ouais.
Donc voilà, et avec ça, en effet, en play-off, ça peut être très vite problématique. Les Chiefs, eux, ont une défense qui s'est quand même améliorée d'ailleurs sur ce match. L'attaque, on l'a dit, a réussi quelques exploits. On va pas remettre en cause le dynamisme, encore une fois, et le bon coaching d'Andy Reid. Mais en défense, il y a eu des progrès aussi.
En défense, il y a eu des progrès, comme tu dis, Spagnuolo, pour le coup, fait un vrai bon match avec une stratégie très agressive sur Tom Brady et profiter, à mon avis, de ses absences sur la ligne offensive en se disant si c'est pas à ce moment-là que je mets la pression sur Tom Brady, ça sera pas un autre moment. Donc, ça a été bien joué. Ils prennent encore, malgré tout, quelques yards, mais bon, c'est une défense qui est capable de faire des turnovers. On le savait, hein, de toute façon, c'est une défense, elle a besoin d'être moyenne pour donner l'opportunité à son quarterback d'aller chercher le match. Après, par contre, là, c'est là où je suis peut-être un peu plus inquiet. J'ai trouvé Mahomes un peu diminué physiquement. Je l'ai senti un peu emprunté assez rapidement dans ce match.
Beaucoup de pépins hein, cette saison quand même. Ouais. Il a eu un peu de problème de cheville. Maintenant, il a la main qui a tapé.
Ouais, c'est ça. C'est pas aussi aérien, on va dire, que l'an dernier. Ce qui est bien dommage parce que le Mahomes aérien de l'an dernier avec une défense bien meilleure, ça promettait beaucoup. Là, du coup, l'attaque a un peu régressé. Ça reste quand même assez costaud côté de chiffres, mais il faut surveiller physiquement Mahomes d'ici la fin de saison, je pense.
Un petit mot sur l'arbitrage quand même. Il y a deux possibles touchdowns qui échappent à New England. Alors, ils ont eu droit au grand classique des arbitres qui sifflent trop tôt alors qu'il y a un fumble et que le défenseur pouvait retourner. C'était Stephen Gilmore. Bon, ça arrive malheureusement à plein d'équipes et à chaque fois le coup de sifflet est trop tôt et on se demande toujours pourquoi.
Ça arrive toutes les semaines.
Voilà, c'est une horreur. Et puis après, ils ont le touchdown refusé à Nkilari parce qu'il aurait été hors du terrain, donc il siffle pas touchdown et c'est pas. Il n'y a pas de ralenti vidéo du coup parce que c'était pas un touchdown, sinon ça aurait été automatiquement revu. Et comme New England avait déjà utilisé ces deux challenges, dont un qui avait été gagné, c'est ça qui est assez dingue, ils ne l'ont pas récupéré, ils se retrouvent à pas pouvoir challenger. Bon, voilà, ça arrive à toutes les équipes.
Ouais.
J'ai une petite. Alors, c'est pas une théorie, mais je suis d'avis et je le dis à chaque fois qu'il y a toujours des erreurs d'arbitrage sur toutes les équipes de manière indifférente. Pour moi, il n'y a pas de conspiration l'une ou l'autre, etc. Et il a suffisamment été reproché aux Patriots que les arbitres allaient dans leur sens, etc. Enfin, c'était un des grands leitmotifs contre eux souvent. Moi, je trouve que surtout ces erreurs d'arbitrage, quand t'en viens à en parler, c'est que t'as plus suffisamment de marge et que ces coups de sifflet ils deviennent décisifs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui.
C'est-à-dire que les Patriots avant gagnaient de manière suffisamment significative pour que même quand il y avait une erreur ou deux d'arbitrage contre eux, ça se voit pas en fait. Et là, on commence à voir des erreurs d'arbitrage contre les Patriots parce qu'elles sont décisives, parce qu'ils ont moins de marge.
Oui, il y a un peu de cette saison. Après, forcément, c'est là, elles ont un impact direct sur le résultat parce que ce touchdown aurait pu. Bon, cela dit, il permet pas officiellement aux Patriots de revenir à égalité. On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière, donc c'est toujours pareil. Mais non, je vois ce que tu veux dire sur l'histoire des marges. Après, de toute façon, à l'arbitrage, on l'a déjà dit un peu cette saison, il n'est pas bon. Globalement, il n'est pas bon sur aucun match. Enfin, pas sur aucun match, mais chaque semaine, il y a des choses négatives. Donc.
Celui à Gilmore, c'est un enfer. Il faut qu'ils arrêtent de siffler si tôt.
Ouais. Non, mais oui. C'est vraiment. Surtout dans un. Enfin, dans un sport comme ça, c'est assez étonnant. Où t'as la vidéo de siffler tout de suite, comme. Enfin, bon.
Rams 28, Seahawks 12. A-t-on assisté au retour des Rams? Question simple.
Oui et non. Oui, au retour, malheureusement pour eux, sans doute un peu trop tardif.
Ils ont qu'un match de retard sur les Vikings dans la course au playoff.
Ouais,
maintenant.
Après les calendriers. Enfin, j'ai regardé un peu le calendrier Vikings-Rams.
Alors, ils ont. Les Rams jouent Cowboys, 49ers, Cardinals et les Vikings jouent Chargers, Packers et Bears.
Bon, après les matchs de division, tu me diras, on sait jamais, mais.
Ouais, et puis les Chargers, on sait jamais.
Oui, les Chargers sont capables sur un match.
Rivers, il va lancer 7 touchdowns, on va rien comprendre, et ils vont planter comme ça Minnesota.
Oui, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, on a retrouvé certains des ingrédients, effectivement, notamment offensivement, parce que, encore une fois, on l'avait dit depuis le début de cette saison, la défense des Rams était rarement en cause dans les mauvais matchs. Elle l'a encore prouvé là, avec une très grosse prestation au niveau du pass rush, etc. Enfin, pas trop de doute sur cette défense cette saison. C'était l'attaque et on a retrouvé un Todd Gurley hyper explosif sur les portées qu'il a eues. Un Jared Goff plus en confiance depuis deux semaines, parce que mine de rien, sa ligne offensive s'est vraiment améliorée depuis deux semaines. Donc lui, clairement, maintenant, c'est bon, on a compris, il lui faut une ligne offensive à minimum solide pour qu'il puisse... s'en sortir, et il y a plus de variété dans le jeu offensif. McVay retrouve peut-être un peu aussi d'allant dans le coaching et dans l'inspiration. Ouais, on a retrouvé clairement des bons Rams qui, en plus, ces dernières saisons réussissent plutôt bien contre les Seahawks, hein. J'ai pas le bilan exact, mais j'ai l'impression que ces 2-3 dernières années, les Seahawks ont du mal à aller les battre.
Non, mais je pense que t'as vraiment tout dit. La défense fait le taf encore, 5 sacs, aucun touchdown offensif autorisé, hein, parce que le seul touchdown des Seahawks, c'est un pick 6. Donc la défense confirme, et tu le disais, l'attaque, 455 yards, Gurley est enfin présent, Goff fait le boulot, il y a un peu de créativité. Voilà, on retrouve tous ces ingrédients-là, et en effet, quand la ligne se met un peu dessus, on les a, et c'est pas injouable, quoi. Cowboys, le choc, c'est 49ers, mais ouais. Je me dis qu'avec cet orgueil de la division, elle était à nous l'an dernier, c'est nous qui étions au Super Bowl. Tu vois, c'est pas
injouable. Ils vont devoir cravacher et espérer un petit accident des Vikings. Ce qui est...
Oui, il faut voir. Alors, faut voir le tiebreaker. Je dois avouer que j'ai pas en tête qui a le tiebreaker s'ils sont à égalité. Bon. Ça va se jouer sur le bilan de conférence, si je ne dis pas de bêtises.
Mais après, les Rams pourront regretter, quand même ce début de saison un peu chaotique, parce que tu sens que malgré tout, sur le papier et dans le talent de cette équipe, il devrait être, à mon sens, dans une situation un peu plus favorable que celle-ci, quoi.
Après, ça restera une saison à peu près correcte si justement
ils remontent le cap.
C'est ça, en se disant, bon, on a eu un peu de gueule de bois du Super Bowl au début de l'année, mais on s'en est remis et là on va se remettre en ordre, et l'année prochaine on repart sur les bonnes bases.
Oui,
mais ils sont dans la course, rien n'est perdu. Les Seahawks par contre sont complètement passés à côté en attaque, ils n'ont pas approché les 20 yards adverses avant le dernier quart-temps. Problème de protection, de drop, de tout. Est-ce que c'est juste de l'application, est-ce que c'est le plan de jeu?
Un peu des deux, mon capitaine. Je dirais pas que c'est les Seahawks auxquels on s'attendait en début de saison, mais ce que je veux dire par là, c'est que le bilan jusque-là des Seahawks était peut-être un peu au-dessus de la somme des talents qu'il y a dans l'équipe en attaque, notamment, je pense. Beaucoup voyaient les Seahawks en difficulté en intersaison. Ils ont un bilan très haut niveau parce que Russell Wilson a tenu à bout de bras toute cette attaque toute la saison. Là, dans un match où lui il est en difficulté parce qu'il a pas le temps, forcément derrière c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas le coaching offensif, en tout cas il n'y a pas l'esprit offensif pour trouver les solutions si Wilson est bloqué. On a un Rashad Penny qui est en forme et qui se pète croisés qui se pète rapidement dans le match en plus. Bon, voilà, on a une défense qui a montré quelques lacunes sur le backfield défensif. Je pense que, oui, les Seahawks passent à côté de ce match, clairement, il n'y a peut-être pas autant d'écart entre les deux équipes, mais je pense que ça révèle aussi un peu sur le fait que les Seahawks sont malgré tout une équipe avec un bon bilan, mais des lacunes, quelques lacunes par rapport à d'autres équipes dans cette ligue, quoi.
Ouais, et puis on l'a dit plusieurs fois, hein, ce petit manque de fond de jeu, quoi, de pas se reposer sur certains exploits, sur manque un peu de rythme aussi des fois, hein, offensivement. La bonne nouvelle, c'est quand même Quandre Diggs, 2 interceptions dont une pour un touchdown, joueur qui était aussi arrivé, je parlais d'Emmanuel Sanders tout à l'heure, lui aussi il est arrivé dans un échange en cours de saison, c'était avec les Lions, donc encore une bonne affaire, comme quoi, hein, échanger les choix de draft pour récupérer des joueurs quand tu vises les playoffs, ça peut servir. Bon, c'est sur ce petit moment de mauvaise foi, en plus on est entre gens qui sont partisans de bazarder les choix de draft pour des joueurs, donc on peut se lâcher, hein. Petit jingle et la suite des matchs.
What's that? Playoffs? Don't talk about playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
Je disais avant le jingle, Raphaël, qu'on était entre gens qui sont partisans de bazarder des choix de draft. On est aussi entre gens qui ont cartonné les pronostics. Je ne dis pas que... Voilà, en fait, on en profite parce qu'on ne sera pas dans l'émission de jeudi où ils vont rappeler les scores. Mais il faut quand même dire qu'il y a un remontada, quoi. Il y a un remontada, tu es passé devant Raoul parce qu'on a fait à tous les deux un 13 sur 16 sur les pronos. Raoul fait 7, donc tu es repassé devant, je suis revenu à égalité. Donc là, il y a quand même remontada.
J'ai pris 10 points à Raoul en 2 semaines, voilà.
Ouais, non mais là, il y a, c'est qui, c'est Paul Le Guen ou Stéphane Guy qui a hurlé non en voyant les pronostics de Raoul.
Ouais,
là c'était,
ouais. C'était Stéphane Guy, ouais, c'est vrai.
Ouais, là il y avait une petite ambiance Nou Camp 92e minute hein, pour Raoul cette semaine. On le salue en tout cas et on lui souhaite une bonne émission jeudi s'il veut bien la faire après avoir entendu ça. Toutes les autres affiches de la semaine, donc les Bills 17, les Ravens 24. Les Bills ont tenu en défense mais ils n'en ont pas fait assez en attaque. C'est pas une grosse surprise. 6 sacs pour Josh Allen, 4 sur 17 sur 3ème tentative, 5 three and out, donc 5 punts après 3 tentatives, et un Allen à 17 sur 39 à la passe, 209 yards au total pour l'attaque. On n'est pas surpris, je te vois hocher la tête.
Voilà, on n'est pas surpris. Et pourtant, il faut le dire, hein, moi je trouve que depuis le début de saison, Josh Allen a progressé par rapport à l'an dernier. Il a beaucoup plus, il fait beaucoup plus de gros jeux, beaucoup plus d'actions où il porte bien son attaque. Mais c'est encore un poil trop limité pour jouer les top places en AFC. Et ça se voit sur ce match face aux Ravens. Parce que comme tu l'as dit, la défense de Buffalo a été héroïque pendant 3 quarts temps quasiment, en vraiment limitant au max Lamar Jackson, ses receveurs. Enfin, prestations de très haut niveau à ce niveau-là. Mais voilà, Josh Allen, pas de grande surprise. Maintenant, comme il progresse sur sa deuxième saison, côté Buffalo, tu te dis... le chemin emprunté par l'équipe est quand même le bon depuis l'arrivée de McDermott. Je veux dire, ça se construit bien, ça drafte bien, ça fait des bons choix, c'est solide, c'est cohérent. Donc voilà.
On a eu la discussion hein, dans la rédaction pendant le match. On disait que justement, c'était une équipe qui était bien construite, qui progressait régulièrement. Que là, ce sera peut-être un peu trop court cette année en play-off parce qu'il y a un petit manque d'attaque. Et je pense que Josh Allen progresse. Maintenant, il y a encore un palier à passer contre les tops équipes. Oui. Quoi. C'est le dernier palier. Mais que s'il continue comme ça, cette année, ils seront peut-être au premier tour des playoffs. L'année prochaine, ils pourront vraiment titiller New England dans la division et ainsi de suite. Donc, c'est un beau projet. Là, ça semble un poil court contre les grosses équipes.
Ouais, surtout que, enfin, même titiller, ils n'ont qu'un match de retard sur New England. Ils doivent les affronter la semaine dans deux semaines. C'est même pas dit qu'ils ne les embêtent pas un peu plus. Hein.
Oui, non, je voulais dire vraiment la.
Oui, non, mais
prochaine,
je suis d'accord, je vois être favori d'AFC, quoi. Enfin...
Ouais. Parce que si tu lui draftes en plus encore du lineman, du receveur pour l'entourer, etc., ça commence. Voilà, c'est un vrai beau projet. Faut espérer que Josh Allen progresse, que tu l'entoures bien. Mais les Bills font quand même des très belles choses dans la construction là depuis 2 ans. Donc voilà. 9e victoire de suite pour les Ravens, on l'a dit, très grosse défense. Un peu moins d'attaque, mais ils trouvent toujours un moyen de gagner. On parle souvent du calendrier. Ces dernières semaines, ils ont quand même battu les Bills, les Niners, les Rams, les Texans, les Bengals, les Patriots, les Seahawks, les Bengals et les Steelers. Quoi.
Oui.
Donc il y a du matos. Hein.
Ah bah alors eux, clairement, toutes les semaines, par rapport à plein d'équipes, on se pose la question, ça c'est un nouveau test, ça c'est ceci, cela. Eux, sur leurs 9 victoires, comme tu l'as dit, il y en a 7 face à des équipes qui avaient un bilan au-dessus de 50% de victoires. Donc ils cartonnent les plus forts, ils les battent tous les uns après les autres. Et moi, ce que je trouve très optimiste et important dans la dynamique du côté de Baltimore, c'est quand même que là, dans un match où l'attaque roule un peu moins que ce qu'elle n'a eu l'habitude de le faire les semaines passées, c'est la défense qui a sorti les muscles en mettant une pression constante sur Josh Allen, l'empêchant de faire quoi que ce soit. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en AFC, c'est vraiment l'équipe la plus équilibrée, quoi. Entre son attaque et sa défense, c'est celle qui dégage... la plus grosse impression, quoi. Donc, et là, avec la défaite de New England, si eux font pas de bêtises, ils auront le siège numéro 1.
Ouais.
Faudra aller les battre à Baltimore. Ils ont un kicker, contrairement à plein d'équipes dans cette ligue. Donc,
c'est vrai. Non, mais on l'a dit la semaine dernière, c'est dur de voir comment les battre en ce moment. Ils gagnent de toutes les manières possibles. Donc, sous la pluie, à la passe, au sol. Enfin, ils sont quand même.
En
très,
attaque,
très
en défense.
Raiders 21, Titans 42, ils sont 7e de la conférence, mais actuellement les Titans ont l'air d'être l'équipe la plus chaude en AFC Sud, et pas loin dans une bonne partie de l'AFC.
Oui.
552 yards, 4 matchs de suite à plus de 30 points. Raphaël, où sont passés les Titans ennuyeux?
Ah bah alors là,
qu'on nous a fait avec cette équipe?
Non mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'en plus, on pensait pas que ça serait Ryan Tannehill qui pourrait ramener la hype autour de... Enfin, amener la hype tout simplement à Tennessee. C'était quand il est arrivé sur la pointe des pieds à Tennessee, on s'est dit bon, il allait un peu challenger Marcus Mariota, mais voilà, ça allait. Et depuis qu'il a pris en main cette équipe, il est c'est le Tannehill que beaucoup de fans de Miami espéraient, en fait. Finalement, c'est ce jeune quarterback prometteur, intelligent dans ses lectures, qui en plus n'hésite pas à aller à la course chercher des gains, qui n'hésite pas même à aller taper des défenseurs de plus de 30 kilos pour les stopper, parce qu'il se fait intercepter cette semaine et c'est lui qui va taper le défenseur adverse pour l'empêcher de faire un pick 6. Donc je pense que ça doit plaire aussi pas mal à ses partenaires.
Et déjà, on l'avait vu aller au mastic sur des courses où il va dans la end zone, où il allait au plaquage et tout ça.
Et je pense, on n'est pas dans le vestiaire, donc c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais je pense qu'il amène peut-être un peu plus de charisme et d'enthousiasme auprès de ses partenaires que Marcus Mariota, qui était un personnage malgré tout un peu plat, un peu...
Ah bah il est gentil, mais là si tu regardes le vestiaire en termes de motivation, Marcus Mariota c'est Coldplay et Tannehill c'est Metallica, quoi, tu vois.
Ouais ouais, non,
il y a un truc qui se joue, quoi, en termes de motivation,
ouais,
des gens.
Non mais je suis d'accord, mais en tout cas il permet à ces Titans d'avoir une attaque beaucoup plus équilibrée. Même Derrick Henry, ses performances sont meilleures depuis qu'il y a Tannehill. Il profite du fait qu'il y ait une menace dans le jeu aérien pour lui ouvrir des portes. Et comme tu dis, les Titans, à mon sens, sont pas seulement l'équipe d'AFC Sud la plus impressionnante pour le moment. Ils sont, moi, je suis pas loin de les mettre dans le top 4 AFC à l'heure actuelle. En termes d'équilibre aussi d'équipe entre l'attaque et la défense, la défense est aussi à un bon niveau. Elle a des playmakers à l'image d'un Kevin Byard, leur safety. Voilà, eux, ils ont leur destin entre les mains. Ils doivent jouer deux fois les Titans là sur les trois derniers. Les Texans, la couronne va se jouer là-dessus, quoi.
Oui, oui, non, mais là, voilà, là, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est hyper simple, hein, ils jouent les Texans deux fois. Donc la division, elle se joue là, ils ont leur destin entre les mains. S'ils sont raisonnables, je crois que s'ils font un match chacun, je crois que le tiebreaker est pour les Titans, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc clairement, ils sont bouillants, tu l'as dit, c'est équilibré, l'attaque va beaucoup mieux. Donc ça va être intéressant aussi à suivre cette fin de saison, en tout cas en AFC Sud. Et à mon avis, il pourrait presque rendre un service aux Texans en les sortant des playoffs, parce que ça permettrait peut-être que Bill O'Brien soit remercié et que les Texans... peut-être que, je sais pas, est-ce qu'ils jouent le long terme ? Tu sais, on va faire un coup, genre, non, mais si les Titans ne sont pas en playoffs, c'est qu'ils ont joué tactique, ils voulaient que Bill O'Brien reste en poste pour gagner l'an prochain. c'est un coup des Titans pour que Bill O'Brien reste en place et prendre la division l'an prochain. Tu vois, ils sont prévoyants. Les Raiders c'était à 6 victoires 4 défaites, ils sont maintenant à 6 victoires 7 défaites, ils ont perdu les 3 derniers. Bon, c'était une belle histoire quand ils titillaient les playoffs, après ils étaient un peu en sur-régime. Ils vont se reconsacrer maintenant à la reconstruction, notamment en défense, parce que là on a vu qu'ils ont quand même pris un bouillon assez terrible.
Oui oui, comme tu dis, c'était une équipe en reconstruction, un peu en sur-régime. De mémoire c'est quand même 8 ou 9 joueurs qui ont été sélectionnés à la dernière draft, qui ont eu déjà pour certains en plus un impact sur cette saison-là. Il y a des trous en défense, on le savait avant le début de la saison, c'est encore visible, mais ils ont plein de choix de draft pour l'année à venir, donc voilà, c'est une équipe qui est dans son processus de construction, et à quelque part c'est cohérent, sachant qu'ils ont donné 10 ans à Gruden de contrat, c'est cohérent que l'année 2 soit la continuité de la reconstruction, quoi, que tu sois pas déjà au top de ton année 2, ça paraît logique, donc à voir pour la suite.
C'est vrai qu'ils jouent le long terme. Texans 24, Broncos 38. Alors si les Titans ont l'air de favoris de la FC Sud, c'est notamment parce que les Texans se sont encore fait méchamment dessus. Alors le score a l'air beaucoup plus flatteur, hein, parce qu'ils étaient quand même menés 38-3. Hein. Il y a 38-24, mais ils étaient menés 38-3. On est d'accord que c'est un scandale, ce genre de prestation, quand t'es prétendant au playoff et prétendant à un titre de division.
Ouais. Je cherche mes mots pour les... Pour cette équipe, parce que
c'est un non-match total, il n'y a pas grand-chose à dire.
Non, il y a pas. C'est un non-match, surtout que le score est presque flatteur, tellement ils ont été écrasés par Denver en début de match. Hein, je veux dire, c'est. Mais voilà, c'est encore une fois, pour moi, on en revient toujours au même souci. C'est le souci Bill O'Brien qui peut pas. Son équipe peut pas arriver préparée comme ça après une victoire face aux Patriots.
C'est magique, t'as vu en conférence de presse d'ailleurs, hein, quand il dit je croyais que l'équipe était préparée, mais en fait non,
c'est pas possible. Et pour moi ça c'est typiquement la preuve d'un mauvais coaching, parce que justement les Texans battent les Patriots la semaine d'avant, qui est l'équipe mythique de ces dernières années, et battent les Patriots c'est battre les Patriots, et tu tombes dans le piège la semaine suivante en perdant contre Denver. Voilà, c'est typique le coaching qui tient pas ses joueurs, qui les fait pas assez bien bosser, qui exploite pas assez le talent de son groupe. Pour moi, voilà, c'est. Alors après, oui, il y a des lacunes. Il manque un JJ Watt sur le pass rush. Le backfield défensif est pas exempt de tout reproche. Ça manque sûrement un peu de talent. Il y a encore des problèmes sur la ligne offensive. Hein. Ça, c'est. mais c'est une équipe dont...
Ouais, mais tu te fais pas étrier comme ça par Denver.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est que ça explique pas de se faire étrier comme ça. Ça explique pas en dehors du coaching. Donc voilà, encore une fois.
Parlons du positif. Est-ce que les Broncos ont leur quarterback? Drew Lock est à 22 sur 27, 309 yards, pardon, 3 touchdowns, 1 interception. Il avait fait un bon début de match la dernière fois. Là, il fait un très bon début de match et avec des choses un peu plus loin, même si ça s'éteint un peu en deuxième mi-temps, mais ils ont déjà gagné.
Oui, c'est ça. C'est difficile de juger sa deuxième mi-temps quand tu vois l'écart qu'il y a eu sur la première. C'est pas dit que si l'écart avait été plus faible, il aurait pas maintenu un bon niveau sur l'ensemble, on va dire. C'est sympa ce qu'il propose, hein. Ça a l'air bien. Après, c'est que deux matchs. Oui. C'est encore tôt pour... l'ami là, qui ressemblait à Robert Pattinson, là, j'ai oublié son nom.
Brock Osweiler.
Brock Osweiler avait fait un ou deux bons premiers matchs.
C'est vrai.
Et voilà, tu vois, enfin, bon, on va attendre peut-être.
Bon, ils ont quand même Noah Fant, le tight end rookie, qui a 4 réceptions, 113 yards, d'un touchdown. Tu rajoutes Courtland Sutton, qui fait pas un gros match, mais qui est aussi un bon jeune. Ils ont une belle base. Maintenant, il va falloir blinder la ligne devant ce garçon, et puis peut-être espérer des bonnes choses pour l'année prochaine.
Ouais, c'est ça.
Cardinals 17, Steelers 23. Est-ce que Mike Tomlin est le coach de l'année? Ça fait plusieurs semaines que j'en parle, mais là, ça commence à être pas mal, non? Ils sont 6e de la conférence au moment où on se parle, avec Devlin Hodges comme quarterback.
Pareil, hein, ça fait un petit moment on l'avait mis dans nos tops à un moment, Mike Tomlin, dans un des derniers podcasts. Il fait un taf assez incroyable parce que cette semaine, vraiment, ils abordent ce match-là sans le quarterback numéro 1, receveur numéro 1, coureur, fullback, centre, tackle. Enfin bref, c'est l'équipe réserve de. Offensivement, en tout cas, c'est l'équipe réserve de Pittsburgh qui se déplaçait. Ils sont sérieux, ils gagnent encore ce match. S'ils vont en playoff, oui, Mike Tomlin, je sais pas s'il l'aura, mais il mérite des voix, ça c'est sûr.
J'allais faire la remarque de Troll 9000, mais alors tu veux dire que peut-être que les Patriots ne devraient pas se plaindre des blessures et que Mike Tomlin fera un meilleur boulot que Bill Belichick s'il avait des blessures
ouais, toi,
avec l'effectif des Patriots. Non mais je plaisante. Non mais oui, ils font un énorme boulot. Alors après, ça commence par la défense. Il y a 9 séries offensives pour Arizona, oui. Il y en a 6 qui se terminent par un punt ou un turnover. Un seul touchdown offensif pour Pittsburgh, l'autre c'est sur un retour de Diontae Johnson. 35 courses pour 19 bonnes passes, ils prévoient bien, mais tu devines les forces et les faiblesses, mais ils s'en sortent, quoi. Ils arrivent à vivre sur leurs forces comme ça. Ils ont 3 interceptions, 5 sacks, ils sont à fond sur leurs forces et bien coachés, quoi.
Ouais, c'est ça, défensivement, comme tu le dis, ils sont portés par 2 jeunes joueurs qui sont candidats, à mon sens, au titre de défenseur de l'année, qui sont TJ Watt et Minka Fitzpatrick. Sincèrement, les deux portent cette escouade. Pas à bout de bras, parce qu'il y a du talent sur les autres lignes,
oui.
Donc c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, ce sont les moteurs de cette défense qui est impressionnante depuis plusieurs semaines maintenant. Ça sera court pour faire quoi que ce soit en play-off s'ils y vont.
Il manque trop d'attaques.
Voilà, il manque trop d'attaques pour le coup. Mais forcément, Mike Tomlin, qui avait vu sa cote baisser un peu ces derniers temps là, elle remonte en flèche, surtout quand, enfin, si en plus tu prends les à côté avec Antonio Brown qui est parti en cacahuète, Le'Veon Bell qui a du mal à performer, enfin voilà.
Oui, non, mais je pense que là, il vient de souffrir quelques années, en effet. Hein. Il est tranquille pour un moment avec le boulot qu'il a fait. 3 interceptions, 5 sacks, je l'ai dit, pour Kyler Murray. C'est compliqué, hein, cette fin de saison pour les Cardinals, quand même, qui perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a pas l'air ça stagne, hein, ça a pas l'air de progresser.
Ouais, ça stagne en attaque. Je trouve l'attaque plus conservatrice qu'en début de saison, où il y avait un peu plus de package, comme on dit, donc d'alignements un peu originaux avec 2-3 coureurs alignés sur des extérieurs. Voilà, c'est moins original, donc ça stagne un peu. Et puis en défense, en dehors de Chandler Jones, c'est quand même un peu le désert.
Ouais.
Donc après, on le savait aussi, hein, qu'Arizona c'était aussi une équipe en construction, que tout ne serait pas bon dès cette saison. Voilà, va falloir continuer. Faut peut-être s'entourer par un bon coordinateur défensif. C'est peut-être aussi un des trucs clés de l'intersaison des Cardinals, trouver un bon coordinateur défensif.
Buccaneers 38, Colts 35. Alors Raphaël, je voudrais commencer en levant un malentendu. On nous a fait remarquer sur les réseaux sociaux qu'on taquinait beaucoup Jameis Winston en nous disant qu'on ne l'aimait pas beaucoup. Alors est-ce qu'on est d'accord et que c'est tout le contraire?
Ah, c'est tout le contraire, mais moi j'allais en parler en top. Hein, mais
Ah voilà. On est d'accord que on adore Jameis Winston. C'est pas du tout. On n'est pas du tout des haters. Donnez-moi Jameis Winston plutôt que Marcus Mariota tous les jours, par exemple.
Ah oh bah là oui. Ah mais il y a même pas photo. C'est le jour et la nuit, hein, clairement.
Parce que 456 yards, 4 touchdowns, 3 interceptions. Qui peut faire ça, hein? On en parle
personne.
Beaucoup. Voilà, on en parle beaucoup parce qu'il fait le spectacle, parce qu'il nous éclate, et puis que c'est un jeu, donc c'est l'essentiel qu'on se marre. Et voilà, je pense que, mais je crois que c'est ce que tu disais le soir du match quand on en discutait, c'est que si tu conseilles un match à quelqu'un qui regarde pas de match d'habitude, bah tu dis match celui avec Winston, tu vas t'amuser quoi.
Ah bah c'est sûr qu'il va se passer des choses, ça c'est évident. Voilà, c'est la prestation la plus Jameis Winston de toutes les prestations, hein. Comme tu dis, c'est 4 touchdowns où il va chercher des passes, celle pour Mike Evans, elle est superbe.
Et puis,
il y a ses ratés, il y en a une en plus qui est déviée par un défenseur adverse, donc qui n'est pas tellement de sa faute, mais t'en as deux où, bon, il débranche un peu son cerveau.
J'ai la solution, il ne faut lancer qu'en profondeur, parce qu'en fait, il ne voit pas les linebackers sur les interceptions.
Oui, c'est pas faux, ouais. C'est vrai qu'il se fait souvent intercepter au milieu, en mi-distance, comme on dit. Non, ouais, c'est pas faux. Non, mais en tout cas, c'est un bon match, malgré tout, de sa part. C'est une équipe de Tampa Bay qui a toujours ses petits défauts, hein, mais qui finalement, malgré ces erreurs-là, arrive à toujours être dans tous les matchs cette saison, en remporter certains. Tu sens qu'il leur manque un petit déclic à Tampa Bay pour que ça passe du bon côté, qui est sans doute le déclic Jameis Winston.
Il sera comme ça toute sa vie, il n'y a rien à faire.
Oui. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un super tweet sur Jameis Winston qui reprend une scène de The Office, de la série américaine.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
The Office. Donc la légende, c'est Jameis Winston dans le bureau de sa future franchise NFL au moment de l'intersaison pour son nouveau contrat. Et donc t'as un des acteurs de The Office qui en fait propose à un de ses clients un nouveau contrat, et il lui dit: ça pourrait être le meilleur contrat de votre vie comme ça pourrait être le pire contrat de votre vie.
Ça
pourrait être le meilleur comme le pire, je sais pas, mais on le tente et tout comme ça. Et c'est clairement ça quoi, c'est Jameis Winston.
Du coup, je viens de réaliser, en parlant de l'histoire des linebackers, peut-être qu'un jour on va découvrir que Jameis Winston est myope. Tu sais qu'il voit mal de près mais bien de loin. Et tu sais, genre, personne n'a jamais pensé à regarder. Tu sais, le type n'a jamais passé un examen
oculaire.
J'espère
qu'avec les 35 médecins des staff NFL, il y en a quand même un qui a pensé à faire un test de vue.
Quand tu vois ce qui se passe à Washington, tu sais pas, hein, franchement, les mecs, ils voient une boule ou un truc, une tumeur, ils font non, mais c'est rien, t'as pris un coup, mec, allez, avance. Donc, je sais pas. Franchement, un jour, on va réaliser qu'il a juste un sale problème de vue et qu'il voit bien que de loin, tu sais. Bon, sinon, on voulait dire que c'est terminé pour les Colts dans la course au playoff. Alors, ils sont pas mathématiquement éliminés, mais là, ça commence à faire beaucoup. Leur jeu au sol a été mis en échec. Jacoby Brissett a été honorable, mais il cale à la fin. Après, vas-y, oui.
Ouais, non, mais je pense que c'est ce que tu allais dire. Hein. Il manque de cible là sur cette fin de saison sans T.Y. Hilton, sans Eric Ebron. Quand en plus le jeu au sol est stoppé, ça rend plus compliqué la tâche, même si lui est pas mauvais. Hein, mais voilà, il y a beaucoup de blessures sur cette fin de saison côté Colts. Je pense que malgré tout, il y a aussi le contre-coup peut-être de cette saison qui était prometteuse avec Andrew Luck et finalement qui Andrew Luck ne vient pas. Et tu sais, t'as les premières semaines, ça se passe bien parce que t'es dans le... C'est pas on se bat pour lui, peut-être pas jusque-là, mais c'est on veut prouver qu'on est une bonne équipe sans Andrew Luck et de toute manière, on peut faire des choses sans lui. Et à la fin de la fin, quand dans la course finale, il faut un quarterback capable de faire la différence... Et ben ça cale parce que c'est pas Andrew Luck qui est à la tête de cette équipe, et donc ça cale dans les grands matchs à la fin de saison quoi.
On passe en NFC, toujours dans la course au playoff, Eagles 23, Giants 17 après prolongation. Les Eagles sont décimés, ils ont terminé le match avec un seul receveur en état de jouer, mais ils sont toujours vivants. J'ai envie de dire que c'est l'essentiel, ils ont joué une mi-temps et la prolongation. Carson Wentz et Zach Ertz vont chercher les touchdowns de la victoire. Boston Scott est la révélation du match, il avait joué 14 snaps en carrière avant ce match, là il prend 128 yards. La défense se réveille en deuxième mi-temps, mais bon, c'est pas glorieux parce que c'est y a quand même pas grand-chose en face, quoi.
Oui, c'est ça. Face à la, c'est même étonnant qu'ils aient eu autant de. Bon, alors non, pas étonnant parce qu'avec toutes ces blessures, mais il y a pas grand-chose en face. T'as une défense de New York qui est assez catastrophique et qui en plus est pas capable en cours de match de s'adapter à ce que les Eagles font. Comme tu dis, après Philadelphie est toujours là. Il y a plus grand-chose. Bon, écoute, ça tient. L'avantage, c'est qu'ils peuvent toujours prendre la division. Enfin, c'est une équipe qui est en train d'imploser dans tous les sens de l'autre côté. On va y revenir après aussi. Je les donne pas perdants, les Eagles, hein, sur cette fin de saison pour gagner la division.
Bah, ils sont aussi en galère que Dallas psychologiquement, visiblement, mais ils ont encore moins de monde dans l'effectif à cause des blessures. Oui. Alors moi, je miserais sur Dallas s'il faut mettre de l'argent maintenant, mais c'est quand même très compliqué. Mmh. Bon, on l'a dit, hein, en face, il y a Eli Manning qui rejoue. Alors, bonne première mi-temps, il lance deux touchdowns pour Darius Slayton. Derrière, il gagne 29 yards en deuxième mi-temps, quoi. Donc a priori, il y a un peu de réveil de la défense de Philadelphie, et puis il y a un peu du fait qu'il n'y a quand même pas grand-chose, quoi, du côté de New York. C'est un peu une course. Bon, il va y avoir le Battle Royale, hein, ça va être le Philadelphie-Dallas de la semaine 16, ça va être exceptionnel. Alors, en termes de niveau de jeu, je ne sais pas, hein, mais au moins il y aura de la hype. Mais voilà, bon, c'est très dur de commenter cette NFC Est parce que c'est tellement décousu pour les deux équipes. Il y a tellement de blessures, il y a tellement de problèmes psychologiques, que ce soit pour Philadelphie ou Dallas, que ça ressemble pas à grand chose, quoi.
Non, non.
Juste une petite stat, Eli Manning est maintenant en bilan négatif sur l'ensemble de sa carrière en saison régulière. Alors, il a peut-être pas dû revenir rejouer. Comment ?
Ça fait mal.
Ben ouais, 116 victoires, 117 défaites en saison régulière hein, maintenant pour Eli Manning. Donc, bon, c'est pas, il joue dans des équipes, hein, c'est pas tout lui, la défense, c'est pas lui. Hein. Mais voilà, pour la petite stat. Bears 31, Cowboys 24, on continue donc avec cette NFC Est. On regroupe, hein, on vous rappelle depuis la semaine dernière les matchs de playoff, on essaie de faire les résumés dans cet ordre-là. Donc, ça c'était le jeudi. Deux questions pour moi sur ce match, Raphaël. Numéro 1, qu'est-ce qui ne va pas à Dallas ? Dak Prescott dit qu'il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va pas. Est-ce que toi tu y arrives ?
Enfin, j'y arrive, je sais pas si j'ai la bonne réponse, mais je pense y arriver parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est sur le banc de touche du côté de Dallas.
Et dans la tribune du propriétaire.
Oui, potentiellement dans la tribune du propriétaire, mais bon, ça encore, c'est un autre débat parce que Jerry Jones, au moins, je lui accorde le crédit, il est ni sur le terrain ni à appeler les jeux, donc je lui accorde au moins le crédit que. À part faire le kéké en tribune, il n'est pas responsable de faire grand-chose d'autre, on va dire. Mettre un peu de pression. Il met une pression qui n'était pas forcément nécessaire sur son équipe, ok, je te l'accorde. Maintenant, moi, je peux aussi comprendre qu'il soit un peu énervé parce que c'est une équipe qui, à mon sens, n'exprime pas forcément tout... Enfin, qui ne devrait pas être autant en galère pour remporter cette NFC Est-là, avec des Eagles aussi décimés.
Je suis d'accord avec toi, mais un truc quand même sur Jerry Jones, faut pas oublier qu'il est pas que propriétaire, il est general manager hein, officiellement.
Oui, non mais ça. Ouais, oui. Après, ça fait un petit moment que c'est plus vraiment lui à la draft qui s'en occupe. Enfin.
Ouais, mais tu vois, dans les faits, oui, Dallas c'est quand même la seule équipe qui a un general manager qui est invirable de facto.
Oui, non mais je suis d'accord. Tout n'est pas idéal dans cette gestion. Hein. Maintenant, ces dernières saisons, a priori, il était quand même un peu en retrait des grandes décisions, en tout cas sur la draft. Ouais, sur les contrats, je pense que c'est lui qui met l'argent encore. Mais,
ouais, mais c'est son fils de toute façon qui a la gestion, donc il va pas le virer non plus, quoi.
Non, ça, ça c'est sûr. Mais bon, je pense quand même que l'un des principaux problèmes, c'est Jason Garrett qui arrive pas à exploiter et à donner une dynamique à cette équipe, à lui faire passer un palier, à en faire un vrai favori, etc. Il y a quelques lacunes aussi depuis quelques matchs en défense. La défense c'est pas exemple de tout reproche, je trouve, notamment le backfield défensif. C'est là où on se dit qu'ils auraient bien fait cette intersaison d'aller chercher Earl Thomas comme les Ravens l'ont fait, parce que je pense qu'un safety du niveau d'Earl Thomas dans cette défense aurait fait un bien fou.
Oh oui.
Donc voilà, moi je mettrai un peu le doigt sur ces deux choses-là, quelques lacunes en défense, backfield défensif et Jason Garrett qui à mon avis n'est pas la solution pour que cette équipe passe un palier, passe de je peux gagner la NFC Est à je peux gagner la NFC tout court, quoi.
Question 2, Mitchell Trubisky, 3 touchdowns à la passe, 1 au sol, 63 yards au sol, vrai progrès ou pas? Moi j'ai déjà répondu dans le fauteuil, je vous renvoie au fauteuil, je laisse Raphaël répondre.
Coup de vrai progrès, oui, dans les faits, oui, c'est mieux qu'en début de saison, c'est pas clairement. Maintenant, c'est aussi mieux parce que tout d'un coup, son jeu au sol se met à être un peu plus performant depuis 2-3 semaines avec le coureur rookie Montgomery de mémoire, sur le nom. Voilà, après, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus Trubisky qui fait gagner son équipe.
Bon, à confirmer, quoi.
À confirmer, après, je pense, moi, mais je pense que t'as le même avis que moi. On sait ce qu'on a avec Trubisky, ça va être ce quarterback correct, correct sans plus, qui fera. Voilà, qui fera du moyen.
Avec un peu de taf, il peut devenir le nouveau Alex Smith. Quoi. Packers ouais, ouais. 20, Redskins 15. Aaron Rodgers a expliqué après ce match que ça ne le dérange pas de gagner moche jusqu'au Super Bowl si ça marche. Alors, il a raison sur un point, c'était moche. cette attaque tousse toujours. Est-ce que Aaron Rodgers joue trop compliqué?
Bonne question. C'est pas improbable. Hein. C'était déjà ce qu'on lui reprochait un peu l'an dernier. Cette tendance à peut-être trop vouloir faire du big play, trop vouloir faire et pas être aussi mécanique qu'un Tom Brady ou un Peyton Manning ont pu l'être à une certaine époque où ça se contentait de faire des passes de 5-6 yards pour avancer, mais peu importe, on s'en fout, ça fait avancer quoi. Il y a un peu de ça. Après, c'est pas que lui non plus. Je sais pas, c'est un peu bizarre hein, du côté de Green Bay, je trouve offensivement ce qui se passe parce que il y a quand même Aaron Jones qui est devenu un vrai coureur numéro 1, qui apporte même des solutions à la réception. Après c'est... Non, faut aussi dire que moi, je suis pas convaincu par son groupe de receveurs.
Oui, c'est moins costaud que ça l'a été.
Davante Adams, c'est un bon receveur numéro 1, mais moi, je le trouve juste au bon. Je trouve même pas qu'il soit particulier... Enfin, pour moi, c'est pas un top, il est bon. Ouais. Derrière, c'est assez... Et Jimmy Graham, ça fait un petit moment que c'est plus le Jimmy Graham de New Orleans, hein. Il y a peut-être ça aussi, il manque peut-être de receveurs d'un peu plus de talent.
Il y a un peu des deux, parce que justement, comme il garde longtemps le ballon et qu'il cherche le gros jeu, c'est dur d'établir un rythme et du coup d'intégrer aussi des receveurs qui sont peut-être un peu moins talentueux, comme le fait New England justement à une époque, où tu as des mecs qui connaissent parfaitement le système et qui du coup font rouler le truc sans être forcément des superstars. Quoi. Donc ça, l'un va avec l'autre, quoi.
Oui, je pense. C'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qui... Parce que sur le papier, il y a quand même des éléments pour que ça soit un peu mieux offensivement, mais c'est vrai que c'est toujours... Après, c'est la première année dans ce nouveau système. Peut-être qu'il faut du rodage aussi. Quoi.
Ce sera un des mystères des playoffs, en tout cas les Packers, pour l'instant, s'ils y vont. Les Redskins se battent alors, avec leurs jeunes, avec leurs armes. Ce sera à voir l'an prochain avec un autre coach. Va falloir que Dwayne Haskins accélère. Hein. Il prend 4 sacs encore. Il est stacké sur 14% de ses tentatives. Qu'est-ce qu'il nomme ? C'était 6% pour indication avec la même ligne, du coup. Et l'année où DeSean Watson prend 60 sacs ou un truc comme ça, c'était sur 10% des tentatives. Donc vraiment, Haskins, c'est vraiment sur un rythme élevé au niveau des sacs qu'il prend. On en reparlera évidemment plus en détail encore l'année prochaine, en espérant pour eux que ça se passe mieux. Les Vikings 20, les Lions 7, autre équipe de la NFC Nord, autre victoire sans trop de panache. Les Vikings s'imposent surtout en défense hein, contre une équipe faible. David Blow a pris plus de sacs que de passes complétées en premier quart-temps pour la petite stat. Il en prend 5 au total sur l'ensemble du match. Les Lions marquent leur touchdown à 2 minutes de la fin, hein, c'était plié, il y avait 1-0. Les Vikings sont 6e en NFC, on l'a dit, avec Charles Packers et Bears au programme, donc avec les Rams un match derrière. Bon, on sait ce qu'on a avec les Vikings pour l'instant. Ils auraient pu faire mieux en attaque, ils ont le potentiel pour faire mieux en attaque, mais au moins leur défense se remet en place.
Oui, c'est ça, comme tu dis, on sait ce qu'on a. La défense s'est mise en place et est globalement solide. L'attaque, il y a cette possibilité d'être explosif. Maintenant, les Vikings, le test que tout le monde attend, à juste titre ou non, ça, chacun y juge, hein, mais ça va être dans le match à enjeu, élimination directe. Voilà.
On passe au match sans enjeu justement, Jaguars 10, Chargers 45. Gardner Minshew n'a rien pu faire pour empêcher une cinquième défaite de suite. Cette année, ils ont battu au final que les Bengals, les Jets, les Broncos et les Titans, c'est en début d'année. Est-ce qu'il n'y a pas tout à refaire finalement à Jacksonville, plus que le quarterback?
Bah, de toute façon, quand tu perds sur un tel score, c'est pas que le quarterback qui est le problème, hein, assurément. De mémoire, là, c'est le troisième match de suite que les Jaguars perdent de plus de 17 points. Pour une franchise qui était il y a 2 ans et quelques en finale AFC, qui était pas loin d'éliminer les Patriots in fine. avec une défense de fer. Ouais. C'est, pour moi, le constat est assez clair. Il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe. La ligne offensive est pas bonne. Les cibles, ça pourrait être mieux avec DJ Shark, le rookie. Hein, donc bon, on va attendre encore un peu. Et puis la ligne en défense, il y a plus le même. On retrouve plus les ingrédients. Pourtant, il y a des bons joueurs, Ngakoue, Campbell. Mais même si le départ cette saison de Miles Jack a fait beaucoup de mal, on le voit, hein, au poste de...
De linebacker.
Non, pas de Miles Jack, c'est Telvin Smith, pardon.
C'est Telvin Smith, oui.
Qui est parti à l'intersaison, qui fait beaucoup de mal contre le jeu au sol. Et puis le coaching, non, mais il y a tout à reconstruire. Hein. Le coaching, le problème, c'est que je ne suis pas sûr que... pareil, là, tu parlais au-delà du coach, je ne suis pas sûr que le GM, tout ça, soit bien les bonnes personnes pour remettre l'effectif en place.
Oui, non, c'est je sais pas, moi je trouve que, et en plus Minshew, en fait, la hype a caché un peu certains problèmes. Je pense que t'as pas de honte à garder Foles avec un nouveau coach pour voir s'il peut le relancer, parce que Foles a que 30 piges, il est pas si vieux que ça, donc
non,
en construisant un peu le reste, je suis pas sûr que le problème soit forcément de mettre Minshew à la place de Foles.
Je suis d'accord, hein, je suis pas sûr que ça réglera. Ça à mon sens, c'est au nouveau coach de décider, en fait, lequel des deux il veut installer, s'il veut installer un tout jeune ou se lancer avec Foles. Je pense que c'est vraiment une décision du futur coach.
Bon, du côté des Chargers, ils ont fait un beau match, ils savent le faire. C'était les 38 ans de Philip Rivers. Austin Eckler lui a offert 101 yards à la course, 112 à la réception, pardon. Rivers qui a fait une belle déclin, il a dit: nous avons montré ce genre de sursaut cette année, j'ai lancé comme ça cette année, j'ai juste eu quelques pertes de balles et erreurs critiques, mais nous avons montré des éclairs de ça, nous avons juste été plus consistants aujourd'hui. Ben voilà, il a résumé leur saison.
Oui.
J'aime bien ce genre de déclin, parce que tu sais, c'est toujours en dehors des interceptions, j'ai été bon.
Voir les Chargers des 6 dernières années, mais...
oui, c'est vrai. Browns 27, Bengals 19. Alors, je sais que j'ai dit match sans enjeu. Mathématiquement, les Browns sont pas éliminés, mais on va pas se mentir, ils sont à 2 matchs des Steelers et à 2 matchs des Titans. Hein. Oui. Donc, 4e victoire en 5 matchs pour les Browns. Mais une victoire très difficile. Ils peuvent remercier le manque de réalisme des Bengals quand même, parce que Cincinnati a gagné plus de yards, perdu moins de ballons, s'est retrouvé 5 fois dans la end zone avec seulement un touchdown au bout. Donc, ça reste une victoire à l'arrache. Et au final... Comme d'habitude avec les Browns, on parle pas du match, on parle des rumeurs de transfert de Beckham, on parle de Baker Mayfield qui dit que ses médecins sont mauvais, etc. etc. Bon, mais il y a quand même un peu de mieux pour Cleveland, même s'il y a 2 interceptions. Alors, il y a des rebonds et des drops.
Oui, il y a un peu de mieux, parce que depuis quelques semaines, ils affrontent les moins bonnes équipes de la Ligue. Enfin, ils ont une deuxième partie de calendrier beaucoup plus facile. Donc forcément, il y a un peu de mieux par rapport au début. Après, c'est vraiment très loin de ce que plusieurs attendaient. J'ai envie de dire, à mon sens, hein, on voit avec le nouveau coaching l'an prochain. Enfin, je pense qu'il faudra voir ça.
Oui, non, c'est vraiment... là, on est dans le domaine de la suite encore avec Cleveland, une intersaison complète, peut-être... mettre un peu plus en place le coaching staff, parce qu'on entend parler pendant la semaine de qui appelle les joueurs en attaque, un peu de friture, chacun a son mot.
Moi, je pense qu'il faut le changer, hein, sincèrement.
Oui, toi, t'as jamais été partisan de toute façon de Freddy Kitchens, donc voilà, ça va être des choses à mettre au clair en tout cas. En parlant de coaching staff que t'aimes bien, les Jets ont gagné.
Tu vois, alors, je fais un petit rebondissement, mais à mon sens, un coach comme Ron Rivera pourrait apporter de la stabilité à cette équipe pour leur donner un vrai caractère et redresser un peu ce bateau, quoi.
Mike McCarthy?
Ouais, aussi.
Coach offensif en plus.
Ouais, je pense que c'est le genre de coach qui peut amener un certain sérieux et qui peut faire quand même du bien à cette équipe malgré tout et remettre les mecs un peu dans le bon sens. Alors, je dis pas pour aller gagner tout de suite un Super Bowl et établir une dynastie, hein, mais...
Tu mets un McCarthy qui a justement une bague, il rentre dans le vestiaire, il dit: je suis un coach offensif, j'ai coaché Favre et Rodgers, donc maintenant mes fields... voilà, et c'est pas une. Puisque j'ai pensé à lui, parce qu'il y avait des rumeurs ce matin qu'on pouvait justement encore coacher. Donc, voilà. Je disais donc les staffs que t'aimes bien: Jets 22, Dolphins 21. Victoire à la dernière seconde pour les Jets. Donc, a priori, on sauve la place d'Adam Gase. Hein, on est pas mal. Sans Le'Veon Bell, alors il y a une rumeur aussi sympa, hein, qui disait que Le'Veon Bell avait de la fièvre et il était forfait pour le match, mais samedi soir il était au bowling. Donc, a priori, le New York Post est rencardé sur ses sorties. Il y a 21 points des. Alors, Vous voyez 21 points des Dolphins. Là, vous vous dites, bon, il y a eu quelques touchdowns. Eh ben non, il y a eu 7 field goals. Hein. 3 x 7, 21, le compte est bon.
Lui, ce kicker-là, ils peuvent le re-signer. Hein, parce que...
Ah ouais. Alors, il n'y a plus personne à Miami. Hein. Leur meilleur coureur sur ce match s'appelle Patrick Laird et leur meilleur receveur s'appelle Isaiah Thomas. Voilà. Sans leur faire insulte, hein, le fan de NFL lambda, Patrick Laird et Isaiah Thomas, ça ne fait pas trop rêver quand même.
Bon, non, c'est sûr.
C'était un match entre deux équipes qui visent l'année prochaine. On termine avec Falcons 40, Panthers 20. Chris Lindstrom était de retour et les Falcons signent leur meilleur match au sol de la saison, 159 yards. Coïncidence, je ne crois pas, non ?
Non, je ne crois pas non plus, effectivement. Bon, après, c'est une équipe des Falcons qui a su montrer un peu de redynamisme sur ces dernières semaines, qui montre qu'ils valent sans doute un peu mieux que leur bilan actuel. Bon. Voilà.
Oui. Ça a été une saison un peu compliquée pour les deux. Il y a eu des blessures à Carolina, ouais. Il y a eu des problèmes de coaching à Atlanta.
Des deux côtés, le coaching. Aussi, voilà.
De toute façon, en plus, oui, je dis ça, les Panthers viennent de virer leur coach. Donc, d'ailleurs, a priori, l'intérim de Perry Fuel en tant que coach va pas vraiment se transformer en CDI, hein, parce qu'ils prennent 4 ballons perdus, un touchdown de plus de 90 yards, les joueurs qui critiquent derrière, enfin la totale, quoi.
Ah bah alors là, s'il y a bien des gens qui ne seront pas étonnés par ça, ce sont les fans des Giants, vu que Perry Fuel avait été quelques saisons le coordinateur défensif de New York, qui a laissé un souvenir impérissable du côté de la grosse pomme, donc absolument aucune surprise pour le coup, tu vois.
Et il a été coach principal des Bills, hein, de mémoire.
Mais oui, c'est vrai.
Oui, ça s'est pas bien passé non plus, on s'en rappelle pas non plus. Pour les matchs, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, c'est à toi de commencer pour le top.
Mon top, donc je l'ai brièvement évoqué, mais ça va être Jameis Winston. Un peu en réaction aussi à tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc pour confirmer effectivement que de 1, on adore ce joueur, mais au-delà de ça, moi je me tâte à écrire un petit papier éloge sur Jameis Winston, peut-être pas sur le caractère, mais en tout cas sur le joueur de football. Parce que je trouve qu'il incarne, c'est la définition même de ce qu'on appelle un joueur qui on va dire pue le football, quoi. C'est t'as l'impression qu'il ne calcule rien, mais il joue avec ses tripes, ses émotions. Des fois ça passe, il fait des trucs merveilleux, des fois il fait des trucs complètement débiles. Mais quand t'es un spectateur neutre et que t'es pas un supporter de Tampa Bay, bah franchement tu t'éclates toujours en regardant Jameis Winston, il se passe toujours des choses. Voilà, pour moi c'est un peu c'est ça le football aussi, quoi. C'est un sport, c'est un spectacle et je trouve que lui on est une représentation, quoi, clairement.
Tu veux dire que ce serait un sport, un spectacle et qu'on devrait se détendre et s'amuser?
Ouais, entre autres, ouais.
Genre, on devrait pas se prendre la tête sur des équipes, sur des histoires, des trucs comme ça.
Ouais, entre autres, ouais, entre autres.
Moi, qui croyais que je jouais ma vie et ma carrière journalistique sur chaque article.
Ah, désolé.
C'est un mythe qui s'écroule. Mon top, c'est Diontae Johnson, choix du troisième tour des Steelers, qui est un choix du troisième tour récupéré dans l'échange pour Antonio Brown. Et alors, c'est même pas le fait que c'est même pas le fait qu'il l'ait récupéré contre Antonio Brown, c'est que je suis toujours scotché par les choix de receveurs des Steelers à la draft. Ils y arrivent à chaque fois. Juju Smith-Schuster, Antonio Brown, Santonio Holmes, je sais même
Plaxico
pas.
Burress.
Plaxico Burress, il y en a un qui m'échappe aussi, James Washington, si je dis pas de bêtises.
Ouais, l'autre enfin, là, qui avait des problèmes de drogue, là, mais qui était pas mal
oui,
avant tout.
Mark Davis Bryant.
Voilà.
Ils trouvent que des. On va dire que c'est leur fête cette semaine, mais c'est l'anti-Patriots qui, à une époque, se plantait tout le temps sur les receveurs du deuxième, troisième tour ou des choses comme ça. Les Steelers, moi j'ai l'impression que tu pourrais les faire choisir au hasard n'importe quel receveur au deuxième ou au troisième ou au sixième tour. Le mec il marche, quoi. C'est incroyable. Énorme respect pour ça. Le flop, Raphaël.
C'est vrai. J'en ai déjà un peu parlé, mais Bill O'Brien, hein, forcément, et plus généralement les Texans, qui après une victoire contre les Patriots, tombent bêtement face à Denver et du coup se mettent dans une position assez difficile avec deux matchs à jouer contre les Titans sans matelas d'avance, on va dire, parce qu'ils perdent justement ce match-là. Après avoir fait le plus dur en battant New England, c'est assez désespérant à mon sens.
Moi le flop c'est je suis désolé, je regardais autre chose. J'avais surveillé autre chose en même temps, excuse-moi. Rappelle-moi du coup, t'as dit c'était quoi ton flop?
Bill O'Brien et les Texans.
Bill O'Brien, pardon. Non, oui, j'allais dire, moi, c'est la vidéo. Alors, je sais que c'est un sujet qu'on aime bien, mais j'ai l'impression qu'on est en train de devenir comme le foot-soccer, où ils savent pas comment ils utilisent le truc. Nous, ça devient pareil dans le football américain. C'est-à-dire qu'à un moment, les interférences défensives, on retournait jamais. Maintenant, on va les retourner. C'est horrible. J'ai l'impression que le mieux, au bout d'un moment, ce serait de finir par enlever la vidéo dans tous les sports, qu'on arrête de se prendre la tête, parce que visiblement, c'est un bon outil, mais personne ne sait l'utiliser. Donc qu'on arrête de se prendre le chou et puis qu'on l'utilise plus, quoi, parce que c'est
Woodbill l'utilise pas si mal, hein.
C'est vrai mais sinon j'ai l'impression qu'il y a que le tennis aussi où ils ont trouvé un moyen très carré
tennis,
d'utiliser
c'est assez limpide,
voilà, c'est hyper précis, mais sinon ça n'apporte que de la surpolémique à la polémique, quoi. C'est désespérant et j'ai l'impression qu'on est en train de tomber là-dessus, alors que j'avais pas l'impression que c'était trop le cas ces dernières années en NFL. Mais à force de rajouter des trucs, je sais pas. Je suis vraiment je suis assez perdu là-dessus. Tiens, en parlant d'utiliser la vidéo, tu veux qu'on parle du Spygate 2? Non mais alors, je sais pas.
Joker.
En fait, je sais pas si on devait en parler dans l'émission parce que c'est tombé ce matin. On n'a pas fait de section news spéciale et c'est, je sais pas, c'est ni un top ni un flop. Non, moi je veux juste, en fait, il faut le dire. J'aime bien. Non mais du coup j'aime bien parce que j'utilise les émissions pour m'expliquer parce que l'écrit c'est très froid, donc des fois on me prête des intentions que j'ai pas, donc à la limite bon pourquoi pas. Tiens, je vois qu'il y a 57 commentaires sur l'article au moment où je te parle, ça a un peu explosé. donc ce que je veux dire c'est que moi ça me fait marrer. C'est pour ça que je disais faut se détendre et tout. Bon, dans les faits c'est qu'un sport, c'est que du spectacle et tout. C'est pas grave, est-ce que je vais choquer du monde? Je crois pas particulièrement à la notion de journalisme sportif, tu vois. Je pense que au point où on en est, c'est des industries multimillionnaires, multimilliardaires, c'est du catch mais sous une autre forme, quoi. C'est du spectacle avec des personnages et des machins, tu vois. On joue pas notre vie là-dessus. Donc à mon sens ça fait un peu partie du show et c'est que du sport. Après ça ne m'empêche pas de faire mon boulot sérieusement, c'est pas le souci. Mais voilà, et après pour répondre à certaines critiques, moi j'ai aucun problème avec le fait de faire les mêmes articles si les Bengals ou si les Cowboys ou si les machins font la même chose. Le problème c'est que c'est tout le temps les Patriots. Moi je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne, hein, en termes de matière. Donc voilà, mon flop c'est les Patriots, mais mon flop c'est les autres équipes. Il faudrait qu'elles le fassent aussi, que ça équilibre un peu les choses et qu'on ait des équipes sur des petites manigances comme ça, d'autres équipes. Voilà, moi je vais écrire sur d'autres équipes. C'est mon deuxième flop, c'est que je veux que les autres équipes essayent de magouiller un peu, qu'on puisse écrire sur elles aussi. Merde. <C'est>... Mais non, mais après, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire sur cette histoire?
Pour le moment, clairement pas grand chose. C'est encore un peu flou.
Alors moi, dans le papier, je mets de la perspective. Pourquoi? Je tiens quand même à dire un truc. Je dis donc l'histoire d'ESPN. Elle dit une de mes sources explique que un mec a observé un membre des Patriots en train de filmer le banc de touche des Bengals. Il a dit qu'il était une équipe de tournage, qu'il tournait un documentaire, etc. Donc tout ça, on le dit dans l'article. Après, moi, je mets en perspective. Je relaye le communiqué de l'équipe qui dit nous, c'est une équipe de tournage, c'est une erreur honnête, ils savaient pas, etc. Là où on va me dire oui tu mets à charge etc dans l'article, je tiens à le dire, en effet moi j'ai une conception du journaliste qui est que il faut aussi mettre en perspective les faits. C'est pas que donner les faits, quand tu peux les mettre en perspective c'est aussi ton rôle. Donc en effet je mets en perspective en disant quand TDA est accrédité à Londres, on sait qu'on doit pas filmer le terrain. Donc oui je mets ça dans l'article parce que j'estime que le lecteur est assez intelligent pour se dire ah bah ouais, c'est quand même bizarre que si TDA sait qu'il n'a pas le droit de filmer le terrain quand il y va, une équipe de tournage accréditée par une équipe NFL arrive là en disant ah bah mince, dis donc, je savais pas que je pouvais faire un plan fixe de 30 minutes sur le banc de touche adverse, quoi. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Après, j'en veux pas particulièrement aux Patriots ou quoi, je m'en fous, ce serait eux ou une autre, ce serait exactement pareil. Mais voilà, donc je mets en perspective pour ça, et après, à la fin, on me dit tu mets à charge, etc. Bah, je mets en perspective avec des faits précédents qui étaient le premier Spygate et une enquête d'ESPN de 2015 qui dit. Aux enquêteurs, le chef de la vidéo des Patriots a dit si vous vous faites gauler, dites que vous êtes une équipe de tournage qui fait un documentaire. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Hein. Moi, au bout d'un moment, je prends pas les gens pour des jambons non plus, quoi.
Et en plus, faut pas oublier cette saison l'incident qu'il y a eu à Buffalo avec Sean McDermott qui s'est énervé et qui a viré de mémoire, qui a viré le fils de Belichick.
En plus,
parce qu'il y avait eu cette embrouille un peu étrange. Donc après. quelle était la vraie intention derrière, et entre rivaux de division peut se créer un peu de parano et une réaction excessive de Sean McDermott, hein. Je dis pas le contraire et j'accuse pas forcément, mais voilà, t'as eu en plus cette saison ce petit truc un peu étrange à Buffalo qui a peut-être attiré aussi l'attention.
Voilà, et donc à partir de là, moi, il y a que ça dans le papier. J'ai pas dit oh là là, c'est pour ça qu'ils ont marqué que 3 points les Rams au Super Bowl. Là, ça aurait été de la diffamation et là, ça aurait été des conneries. Moi, honnêtement, c'est ce qu'on disait avant l'émission. Ça me fatigue plus qu'autre chose ces histoires parce que je sais qu'à chaque fois, tout le monde va se gueuler dessus.
Moi,
dans les faits, je m'en fiche un peu, quoi. Donc,
c'est plutôt le côté on n'était pas au courant que qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Moi, c'est plutôt ça qui me vient un peu. Quand tu vois comment tout en NFL est réglé au millimètre près.
Je veux dire, et c'est pour ça encore une fois que je le mets dans l'article, c'est que la justification ressemble à du foutage de gueule. Faut pas non plus se mentir. Encore une fois, t'as été à Londres, à Wembley comme moi, on est allé au Super Bowl, etc. Quand on te donne une accréditation, il y a une liste qui va, il y a des écritures derrière l'accréditation, il y a un PDF que tu reçois avec l'accréditation qui te dit tu as le droit de faire ça, ça, ça et ça, t'as pas le droit de faire ça, ça, ça et ça. Donc faut pas faire semblant de dire oh non, mais ils savaient pas les mecs, tu comprends. Donc voilà. Et après, faut pas non plus être naïf. S'ils veulent faire un documentaire sur le mec, le recruteur qui est en train de scouter l'équipe suivante, ils peuvent le faire, mais je suis pas sûr qu'ils aient besoin de faire des plans de coupe sur le terrain pendant longtemps et que le mec des Bengals les aurait gaulés en train de filmer comme ça. Après, ils ont fait une bêtise. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font pas. Et à eux d'essayer de se faire moins gauler, à chaque fois ça tombe sur eux. Moi, j'y peux rien, hein. Donc voilà. C'était l'aparté, mais encore une fois, le prenez pas tant à cœur. J'en veux à personne. Je suis pas là pour. Moi, je sais pas. Donc voilà. C'est vraiment comme ça. On passe aux questions. T'as vu comment je suis passé vite aux questions avant de m'enfoncer ou de faire un incident diplomatique.
Ouais, j'ai eu peur qu'on aille un peu trop loin. Mais...
Ouais, non, ça servait à rien. Non, mais c'était juste comme ça. Mais c'est pour dire aussi qu'on le garde sur un ton détendu et que ça reste, encore une fois, ça reste qu'un jeu, tu vois.
Non, mais ça, de toute façon, ça reste.
Ouais. C'est... Dans les faits, on est quand même plus ou moins un dérivé de l'industrie du divertissement maintenant dans le sport. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui. Non, mais puis. Tous les gens qui te parlent de charte déontologique du journalisme et tout, mais tout ça là, ça aussi c'est.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent brûler la carte de presse que je n'ai pas. Donc, je vous le redis, ça ne sert à rien. Je n'ai pas la carte de presse. Je l'ai plus. Je l'avais, mais je l'ai plus. Donc voilà. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont lu mes articles sur les Patriots, hein, la commission de la carte. Ils ont vu ça, ils ont dit. Ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Non, je vous expliquerai un jour, mais c'est plus dû à des questions administratives très précises. Je rentre plus dans les critères administratifs. Donc, Darnold et Willy, salut. Que pensez-vous que le projet Haskins continuera la saison prochaine du côté des Redskins?
Oui.
Oui, bah, je pense qu'il faut juste trouver un coach qui veut de lui.
Oui, c'est ça. Ouais.
Plus généralement, comment expliquez-vous que des jeunes QB draftés très haut et qui représentent donc souvent un projet pour leurs équipes soient souvent coupés dans leur élan, des fois même alors qu'ils ont très peu joué, par exemple Josh Rosen? Après, ils se retrouvent dans des batailles de pouvoir aussi, il y a eu un changement de coach pour Rosen.
Ouais, c'est ça, Rosen, clairement t'es dans un contexte particulier, c'est des histoires de contexte, faudrait reprendre quarterback par quarterback pour voir exactement ce qui n'a pas marché au moment. Je pense par exemple à un David Carr à l'époque quand il était drafté par les Texans, très haut à la draft, qui avait un sacré potentiel. Bah, lui, il est tombé sur une équipe où il n'y avait pas de ligne offensive. Sa première saison, il s'est mangé 83 sacs, il a été traumatisé à vie et derrière, ça a complètement cassé. Je pense pas qu'il y ait une réponse globale pour tout ça. Faut vraiment prendre au cas par cas le joueur et voir dans quelle situation il était pour se rendre compte de ce qui a pu bloquer un moment. Et des fois aussi, les scouts NFL se plantent, quoi, en fait. Être un bon joueur universitaire n'est pas forcément être un bon joueur NFL, quoi. Des fois, c'est juste.
Et ben voilà, ça renvoie sur la dernière question de Darnold Lewis, qui était comment aussi expliquer qu'un Trubisky était drafté plus haut que Watson ou Mahomes, et était même souvent annoncé plus haut dans la plupart des mocks. Bah, c'est que c'est pas une science exacte, hein, le recrutement. Quelle équipe estimez-vous devrait avoir un meilleur bilan par rapport au réel, en fonction de leur performance? Je trouve les Vikings trop sous-cotés et pourraient avoir bien plus que 9-4. C'est une question de Cameron Durupt, par exemple. Alors, quelle équipe vaut plus que son bilan? Je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup.
Non, parce que C'était Tom Coughlin qui adorait dire tu es ce que ton bilan, enfin ton bilan dit ce que tu es, quoi. Donc non, je suis pas persuadé.
Non, il y a rien qui me choque, honnêtement.
Non, mais regarde, même les Vikings à 9-4, ça me choque pas, hein. Les Vikings ont des fois des trous d'air, enfin
c'est clair. Non, ça me choque pas. Henry plus loin plaît. Quelle est la valeur ajoutée d'un running back aujourd'hui? Quand on voit les saisons décevantes de Barkley, Elliott, Bell, Gurley et les no-names qui sortent une bonne saison chaque année, cela vaut-il le coup de payer un coureur? Attention, je ne remets pas en cause les intérêts nombreux d'un jeu de course efficace.
Non, mais c'est une bonne remarque, hein. Il y a pas mal de gens qui sont partisans pour dire jamais de running back au premier tour d'une draft. Ça sert à rien de payer un running back parce que t'as des bons running back qui sortent tous les ans des universités, donc il suffit à chaque fin de contrat de rookie de changer de coureur. C'est pas faux ces dernières saisons.
Je me fais l'avocat du diable. Christian McCaffrey, c'est un 8e choix de draft, et Dalvin Cook, c'est un second tour. Je crois qu'il était au premier.
Bon, oui, mais je suis d'accord. T'as toujours des contre-exemples et voilà. Maintenant, si tu prends ces dernières saisons, les équipes qui gagnent au Super Bowl, laquelle a un coureur élite, quoi, tu vois?
C'est vrai. Barathon de Paris nous propose un petit quiz. Alors du coup, j'ai les réponses, donc je te fais le quiz. Un petit quiz inspiré par le 49ers Saints et son score jamais vu jusque-là de 48-46. Alors c'est la grande mode. Il y a un site qui s'appelle NFL Scorigami qui recense tous les scores qui n'ont jamais eu lieu. Donc là, visiblement, c'était le cas. Depuis le début de la saison 2019, combien de scores inédits en NFL AFL depuis 1920? Bon, c'est trop dur. Il y en a eu 6. Le plus grand nombre de points inscrits.
Dans un match cette saison?
Dans un match, mais je comprends pas en fait sa question parce que la réponse correspond pas. Attends, je comprends pas. Quel est le plus grand nombre de points inscrits? Mais il y a une réponse qui colle pas. Le plus grand nombre. Mais il a inversé ses réponses, je crois. Le plus grand nombre de points cumulés, ok, vas-y.
Cette saison?
Non, au total.
Ah, au total.
C'était en 1966. Je te donne un indice au cas où tu te rappelles l'avoir vu.
Ah, je sais pas, 109
113 72 à 41 sur un Redskins Giants. Le plus grand nombre de points inscrits par une équipe ayant gagné.
Bah du coup celui-là, non, avec 72 points.
Il y a eu un 73 en 1940. Les Bears ont battu les Redskins 73-0.
Ah ouais, 40. Donc, alors j'aime bien l'histoire, mais là on est sur la préhistoire du foot là. C'est...
Ouais. Le plus grand nombre de points inscrits par une équipe ayant perdu. Ça c'était l'an dernier.
Ah bah ça doit être le Rams Chiefs, non?
C'est du ça. 54-51.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Le plus grand nombre. Vrai-faux, bonus de la précédente. Une équipe a-t-elle déjà gagné en marquant 4 points?
Je vais dire faux.
Alors attends, je dis. Déjà.
Marquant 4 points.
Jamais une équipe n'a gagné avec 4 points. Et une seule équipe a inscrit seulement 4 points. C'était. Oh là là, c'était en 1923, le Racine Legion contre Chicago Cardinals. Ouais, là, on remonte. le plus petit nombre de points inscrits par une équipe ayant gagné.
Oh, bah à mon avis, 6 points.
Non, moins que ça.
3?
Non.
2?
Ouais, c'est les Bears qui battent les Packers en 1938 sur un safety 2-0.
Oh, le match.
Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vrai ou faux, une équipe a-t-elle déjà marqué un seul point?
Mais alors, comment tu marques qu'un seul point?
Je suis en train de me demander parce que c'est un peu flou.
Ça doit être une époque où j'ai pas les barèmes de points dans toute l'histoire, mais...
Non, on peut pas.
Ouais.
Aucune équipe n'a perdu avec un seul point, on ne peut pas gagner avec un seul point.
Ouais.
Et alors attends, quel est le score le plus fréquent depuis 1930?
Ah, le score le plus fréquent?
Ouais.
Depuis 1930, allez, un petit 31-24.
Ah, t'es trop haut.
Ah ouais,
ouais.
27,
c'est ça. 266 fois, dont le dernier 49ers Ravens. Et les autres scores les plus fréquents, c'est 27-24 et 17-14. Et donc le 27, ça arrivait qu'une seule fois au Super Bowl, c'était Patriots Rams de 2001. Voilà. Bon, c'est une très très bonne séance d'histoire là avec, avec Marathon. On va terminer avec la question d'Anthony de Vialard. Ne pensez-vous pas qu'il est temps, comme en NBA, de faire les playoffs avec les meilleurs bilans et de ne pas inclure par principe les vainqueurs de division? Les Vikings et les Rams par exemple passeraient à la place des médiocres Cowboys. Merci. Je l'ai prise parce qu'en plus on a eu le débat dans la rédaction et on a préparé indirectement cette question. Bon, nous on est traditionnalistes, on veut rien changer.
Oui, grosso modo, on peut dire ça comme ça. En tout cas, pour moi, hein, tant qu'on garde le système de division, je vois pas de raison de changer. Parce que 6 de tes 16 matchs se jouent dans ta division, donc c'est quand même un tiers de ton bilan. Bon, voilà, tant qu'on a ce système de division, moi, je suis pour récompenser le vainqueur de division. Par contre, si on veut remettre en cause ça, à mon sens, il faut faire exploser les divisions et avoir deux conférences seulement, quoi.
Oui, mais moi c'est pareil, le principe, après on en a discuté, le problème c'est que des conférences, il faudrait qu'ils soient tous ensemble et qu'ils jouent 15 matchs du coup, enfin 16 matchs, non ils sont 16 par conférence, donc 15 matchs juste contre leurs équipes de conférences.
Bon, même ça pas forcément en vrai. Ouais, j'y ai réfléchi, mais même pas, tu pourrais faire 8-8 pour vraiment mélanger et...
Ouais, mais du coup, c'est bizarre de classer par conférence si t'as pas joué tout le monde de la conférence. Tu vois, dans la division, ils se jouent
ouais,
tous.
Ouais, ils jouent tous. Non, mais c'est sûr. Hein. Bah, sinon. Non,
moi,
Oui.
Ouais. J'allais dire. Moi, je suis attaché aux divisions. Pourquoi ? Parce que ça représente un gros tiers du calendrier des équipes. Donc, à partir de ce moment-là, il faut les classer là-dessus. Et après, moi, le problème du bilan pur, c'est ce qu'on disait dans la discussion, c'est que souvent, on prend comme exemple les équipes qui ont un bilan faible et qui ne mériteraient pas, mais il y a aussi des équipes où les équipes sont tellement fortes qu'elles se répartissent les victoires, comme à une époque où c'était très très fort dans la FC Nord. Moi, je prenais l'exemple Steelers, Bengals, Ravens, qui étaient très très forts à un moment tous les trois, et ça se répartissait forcément les victoires, et donc ils méritaient tout autant d'avoir une place en play-off parce qu'ils sortaient de ce coupe-gorge qu'une équipe qui avait peut-être 2 ou 3 victoires de plus dans une division plus simple. Donc voilà, moi
je suis d'accord.
Voilà, on est plutôt traditionnaliste. C'est donc sur cette petite note réac qu'on va terminer l'épisode numéro 328 du podcast Jean Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée Game On au Hard Rock Café Paris, Happy Hour. Pour ceux qui viennent voir les matchs, n'oubliez pas, il y aura une soirée Super Bowl évidemment cette année. Et puis une petite soirée de fin d'année, comme on le fait à chaque fois. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. On cite Pantoufle qui s'est ajouté il y a quelques jours à la liste. Merci beaucoup, Raphaël.
Bah, merci à toi.
Ce petit podcast de grève qu'on livre en avance. Et on a même fait plus long, hein, comme quoi on est motive. Merci beaucoup à tous. En tout cas, si vous voulez nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchJeanActu, les Twitter personnels, Raphaël_TDA, Alain Mattei. Alors, les leçons de journalisme, hein, c'est Alain Mattei, si vous voulez les envoyer. Je suis toujours preneur. Raoul VDG, Camille Sarabène, Thiello Radiosa pour nos camarades qui seront là jeudi. Du coup, j'ai l'air hautain quand je dis ça. J'aurais pas dû dire ça. Hein, j'aurais pas dû dire ça. Bon, bref.
Mais non, mais c'est que ça me. Tu couperas au montage.
Comment ?
Tu couperas au montage au pire.
Ouais, non, mais ça me vexe dans mon petit cœur quand je me fais chahuter comme ça. Et voilà, du coup, je suis tout émotif. Merci à tous. En tout cas, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi pour la preview. Normalement, ce sera avec Greg et Raoul. En tout cas, on nous le souhaite. Ça dépendra du trafic. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne semaine. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global, Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.